C'est un parcours un petit peu particulier que nous allons découvrir dans cette émission Reconversion aujourd'hui avec Guillaume Warmuze, que l'on peut trouver dans les années 96 au fait de sa gloire en tant que footballeur, et puis que l'on retrouve là aujourd'hui, donc en 2020, oblat bénédictin à l'abbaye de Flavigny. C'est un parcours donc assez atypique. Guillaume Warmuze, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc, pour aller très vite sur le début de votre parcours, donc, comme beaucoup de jeunes, c'était le football, sauf que là, vous avez été remarqué et donc vous êtes devenu footballeur professionnel.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire, comme beaucoup de jeunes, on fait du football et puis y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se faire ce métier parce que c'est passionnel. Et puis, bon, voilà, le foot, ça donne des émotions et puis c'est un club populaire. Comme beaucoup de jeunes, j'ai eu envie d'être footballeur et puis une rencontre avec un entraîneur à l'âge de 12 ans qui a commencé un peu à développer les qualités de gardien de but, plus ensuite le talent, enfin voilà, les circonstances ont fait que j'ai pu tout de suite accéder à la formation à l'Institut National du Foot à Vichy, dans la fin des années 80. Et j'ai fait toute ma formation et puis je suis sorti, j'ai été remarqué et j'ai signé mon premier contrat professionnel à 20 ans.
On va quand même citer quelques clubs où vous êtes passé, parce que même les non-initiés comme moi, ça évoque quand même quelque chose. Donc il y a eu l'OM, il y a eu Lens, Arsenal, Dortmund, Monaco, au poste de gardien de but. Vous n'avez pas eu une sélection aussi en équipe de France en 98?
Oui, très bien.
J'ai révisé.
Alors, je n'ai pas fait partie des 22 champions du monde, parce que j'ai eu ma blessure, justement, dont on parle dans ce témoignage. Mais je faisais partie de cette génération, c'est ma génération qui est championne du monde. Donc moi j'ai été appelé par Aimé Jacquet contre la Tunisie. Enfin voilà, je suis pas champion du monde en tant que tel, mais oui j'ai été appelé en équipe nationale militaire espoir et puis AA prime. Voilà.
Vous avez évoqué cette blessure, Guillaume Warmuze. Effectivement, elle est peut-être à l'origine de beaucoup de choses. C'est en fait une mauvaise réception.
Oui, c'est ça. C'est un plongeon comme on en fait plein. Et puis, c'était un concours de circonstances où j'ai sorti la balle. C'était un moment où voilà, il y avait beaucoup de tension sur cette fin de match. Et puis, mon genou a cédé quand je suis retombé. Et en fait, de cette blessure grave, on a découlé une prise de conscience sur le chemin de l'homme qu'il y a dans le footballeur, en fait. Puisque j'ai failli arrêter ma carrière à la suite de cette blessure. Et c'est à la suite de 3 opérations. Et notamment, un moment d'angoisse et une vie intérieure, je dirais, retrouvée sur le sens existentiel. Pourquoi ça m'arrive, cette chose, voilà, et un retour, je dirais simplement à ce que j'ai été plus jeune, à mon baptême et à peut-être la vie de prière qui avait été mise de côté pendant ces années-là où je me suis formé.
Sans vouloir renforcer le côté anecdotique, on peut comme dire à une des énièmes opérations qui était un petit peu l'opération de la dernière chance, vous avez eu cette parole malheureuse entre guillemets, si ça se passe bien, ce contrat que vous avez passé avec Dieu, si ça se passe bien, je vais me confesser. Oui. Aïe.
Alors ça s'est fait par étapes. D'abord c'était la première blessure et je m'en suis sorti parce que le chirurgien de cette opération de la dernière chance a bien fait son travail, si je puis dire, mais c'est surtout un retour à la prière où je commençais à demander de l'aide du ciel pour qu'il vienne m'aider à continuer à jouer au foot. C'est ce qui s'est produit. Et donc, je suis entré dans une relation intime et personnelle de la prière. Et puis, 10 ans plus tard, c'est une deuxième blessure. Et là, oui, ça a été un peu une espèce de marchandage en disant, voilà, si ça se passe bien, j'irai me confesser. Et puis, bon, j'avais pas eu tout de suite l'envie d'aller forcément me confesser à la fin de l'opération. Et quand je suis revenu, et puis les circonstances ont fait qu'en m'arrêtant dans un petit sanctuaire à Notre-Dame de la Guée, à côté d'entre Nice et Monaco, eh bien, j'ai réussi. Ma prière a été entendue et je me suis arrêté. Et de façon très étonnante, j'ai reçu le sacrement de la réconciliation et de la confession.
Parce que quand même, effectivement, donc l'opération avait réussi, mais vous aviez un petit peu mis de côté cette histoire de confession quand même. Hein. Et oui. Puis, c'était quand même un signe, hein, cette histoire. Bon, par un hasard ou je ne sais quoi, mais en fait, c'est que vous êtes sur l'autoroute, hein, vous n'avez aucune raison de sortir, vous sortez, puis je vous laisse raconter la suite.
C'est ça. C'est ça, on était en famille et puis on avait décidé, justement, comme j'étais encore un peu convalescent, je ne pouvais pas encore m'entraîner normalement, on avait décidé d'aller visiter l'arrière-pays niçois. Et la navigation me disait de prendre l'autoroute, d'aller tout droit. Et je suis sorti la première à droite. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ça n'avait aucun sens de sortir là. Et au final, dans ces petits lacets, on est tombé sur ce sanctuaire, Notre-Dame de la Guée. Et là, il y a eu comme une prise de conscience. Comme quoi, souviens-toi, tu avais promis d'aller à confession, à confesse. Quoi, voilà. Alors, c'était très étonnant et affolu.
Alors là, zut. Mince, j'avais oublié.
Quand même, Guillaume Warmuze, footballeur professionnel. Et puis finalement, voilà, ce sacrement est... J'ai attendu mon tour et puis je me suis confessé. Et ça a changé complètement ma vie, puisque c'était une vraie libération en tant que telle, psychologique, spirituelle et même physique. Voilà, ça m'a totalement bouleversé et changé aussi ma vie de façon concrète et réelle, ce sacrement. Voilà.
On ne va pas forcément pouvoir rentrer dans tous les détails, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que vous étiez marié. Vous, vous étiez issu quand même d'un milieu chrétien pratiquant, mais pas, vous avez, pas plus que ça. En même temps, vous avez dit aussi que le foot était finalement un milieu assez religieux, pas forcément chrétien, mais religieux.
Oui, c'est-à-dire que dans le football de haut niveau, hein, on développe tous nos dons naturels de façon le plus poussée. D'un seul coup, on va se retrouver avec un adversaire en face de nous qui a quasi le même niveau que nous. On a une pression des gens, alors en ce moment moins à cause de toutes les mesures, mais il y a 80 000, 40 000 personnes. Vous avez la pression médiatique qui est là et tout le monde vous regarde. Et vous avez également la pression financière. Donc tout joueur et tout être humain, à un moment donné, se retrouve compressé et a besoin de trouver une aide, ne serait-ce qu'une aide d'amitié. Mais il y a aussi, le regard se tourne naturellement vers le ciel et vers Dieu. Ça peut se prendre dans toutes ses formes. Il peut y avoir aussi un petit peu de superstition, mais les chrétiens ou même le monde musulman ou d'autres pensées sont là et on voit les gens qui se préparent dans le vestiaire, je dirais, vraiment avoir une idée de Dieu parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment petit et qu'on a besoin d'aide, en fait. Voilà.
Avant de faire cette petite parenthèse, donc j'évoquais le fait que vous étiez marié et en fait, on pourrait presque parler d'une conversion conjugale.
Oui, exactement. C'est-à-dire que de mon chemin, on peut retenir deux choses. C'est d'abord l'entrée à la prière sur la première blessure. La seconde, on vient de le dire, les sacrements. Mais dans les sacrements, il y a un autre sacrement qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'avec mon épouse, ça a tellement bouleversé ma vie, ça a tellement changé qu'on l'a vécu ensemble, hein, on était en commun, qu'elle aussi, d'un seul coup, s'est sentie, je dirais, comme voilà, la nécessité de... Cela, la lumière était tellement, on pourrait dire, tellement importante, ça s'est tellement passé de façon, je dirais, voilà, très, très belle, qu'elle sentit également le besoin, l'envie, la nécessité d'aller également recevoir le sacrement de la réconciliation. Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement, voilà. Et donc, ce qu'on peut aussi définir, c'est le sacrement du mariage, voilà. Le sacrement du mariage a été valorisé.
Donc presque 10 ans après votre mariage, en fait, ce sacrement de réconciliation vous permet de revivre d'une autre façon, enfin, oui. Ou de sentir magnifié peut-être ce sacrement de mariage. C'est étrange.
Oui, c'est complètement étrange. Ce que je peux dire de façon, je dirais, pour l'avoir vécu, c'est que c'est un regard vrai sur les sacrements de l'Église. C'est-à-dire que l'Église n'a pas attendu mon témoignage pour dire que c'est vrai. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que de façon complètement, je dirais, non recherchée, c'est ce qui s'est produit dans ma vie. Voilà.
Vous avez senti que vous atteigniez la vérité, en
voilà,
fait.
Exactement, c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement à travers ce que je vous ai raconté, à travers ce témoignage de confession, à travers mon épouse, et puis derrière le sacrement du mariage. Et puis ça va plus loin, parce qu'on a encore un autre enfant alors qu'on n'en avait que deux. Enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se produit vraiment. Voilà, c'est comme ça. Et la valorisation du sacrement de mariage qui est tellement bafoué, quoi. Voilà.
Cette conversion, Guillaume Warmuz, vous l'avez présentée comme une libération, et finalement une libération qui a été totale, hein, aussi bien physique que spirituelle. Enfin,
c'est difficile. On pourrait parler même de métaphysique en tant que telle. Il y a une libération, moi, est complètement clair au niveau de l'esprit, au niveau du cœur. On a envie de crier tout le monde que Jésus-Christ est amour, il nous aime. Et puis, de façon métaphysique, libératrice, ça c'est, je ne pourrais pas expliquer comment, mais c'est réel, concret, voilà.
Guillaume Warmuz, vous disiez que cette conversion vous a amené maintenant à vouloir crier, témoigner partout, et donc à être oblat, bénédictin. Oui. Alors, oblat, vous n'êtes pas rentré dans l'ordre, mais vous êtes un ami, en fait, très proche, très fidèle.
Une obliteur bénédictine, c'est simplement être quelqu'un qui participe à la vie du monastère, que ce soit à travers des œuvres de charité ou à travers des œuvres, peu importe, financières ou spirituelles, et qui définit un apostolat avec son père spirituel, si on peut dire un apostolat modeste, hein, puisque notre vocation première est d'être marié, donc évidemment je m'occupe de ma famille en premier, mais j'ai une appointance complètement particulière avec le monastère. Et je me retrouve complètement dans cette spiritualité dans laquelle je vis. Voilà.
Et vous témoignez auprès de jeunes aussi ?
Oui, c'est, on me demande dans l'église assez régulièrement d'aller... alors, c'est un peu de tout. Et ça peut être des plus jeunes, des plus anciens, de parler du football ou de la foi, ou les deux, ou que du foot. Enfin, voilà, ça dépend. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai des projets pour peut-être monter... des stages, football et foi, ou football, et, ou même peut-être une école qui formerait des jeunes, voilà, pour former des jeunes par le football, mais en y mettant tous les ingrédients philosophiques et théologiques.
Parce que, est-ce que rétrospectivement, vous avez l'impression que ça vous a manqué avant cet épisode qui vous a amené à une conversion?
Oui, je ne sais pas si ça m'a manqué. Alors oui, nécessairement oui, dans le sens où on aurait gagné du temps de toutes ces conversions, de toutes ces blessures. Mais en même temps, est-ce que je ne sais pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie conjonction. Je suis allé au bout, je pourrais dire, de mon métier pendant 20 ans. Et voilà, ça m'a coûté deux genoux, mais en même temps, il y a eu... voilà, je rends grâce à Dieu pour ça, mais j'ai pu faire une carrière complète qui m'a ouvert sur la vie réelle de l'âme et de l'homme, hein, avec son destin profond. Et donc, il y a une vraie conjonction entre les deux aujourd'hui, à 50 ans, de dire, voilà, comment est-ce qu'on pourrait retransmettre... Alors, faire du football, ça, je sais le faire, il n'y a pas de souci.
Mais... Parce que, pardon, vous avez été entraîneur aussi, hein, et vous l'êtes encore aujourd'hui.
Tout à fait. Je suis entraîneur, je m'occupe des jeunes. Voilà, j'étais chez les professionnels, les amateurs. Bon, ça, je sais faire, c'est pas un problème. Mais il y a une vraie réflexion beaucoup plus profonde, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, faire une école entre 16 et 19 ans, former des jeunes qui aiment le football, pas nécessairement en faire des footballeurs professionnels, mais les entraîner dans le quotidien, leur donner une vraie valeur active du jeu, et à travers une vraie formation humaine et une vraie formation philosophique et spirituelle, pour que les meilleurs continuent pour aller au bac et les autres rentrent dans la vie active, mais tout en ayant un niveau de football qui sera ce qui sera. Quoi. Donc voilà, il y a une vraie réflexion.
Merci beaucoup Guillaume Warmus de ce témoignage d'une conversion presque simple, sans éclat, mais qui a bouleversé votre vie, donc on l'a bien compris, et qui vous amène à témoigner comme aujourd'hui sur nos antennes. Donc merci beaucoup.
De rien, à bientôt.